Vous écoutez RTL.
Je ne sais pas si vous connaissez la formule, Stéphane. Enfin, à vous, on ne doit pas souvent le dire. L'échec, c'est le succès des cons. C'est génialement positif. Langue fleurie, on la doit à Frédéric Dard, l'auteur des San Antonio. 192 romans formidables, une vie romanesque, un succès fou et aussi des souffrances noires qu'on va vous raconter tout à l'heure vers 14h30 dans notre curiosité.
Et tout de suite sur RTL, une saga musicale, celle du chanteur Sting.
La curiosité est un vilain défaut.
You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
RTL.
Every breath you take and every move you make.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Il est ouvert jusqu'à 15h sur RTL. Salut Sidonie, ça va ?
Ça va très bien Thomas, salut les curieux. Si vous découvrez notre émission, sachez que notre curiosité n'a aucune limite. Histoire, science, aventure, vie quotidienne, nature, grand destin, saga musicale comme celle de Sting.
Et qui mieux qu'Éric Jean-Jean pour raconter cette histoire. Salut Éric.
Bonjour les amis.
Bienvenue.
Ça va bien ? On est heureux de vous retrouver.
Très heureux d'être avec vous.
Dans notre cabinet de curiosité, Sting de retour, le chanteur anglais au 100 millions d'albums vendus en solo, sort un nouvel opus le mois prochain, le 20 avril. Sting, ça veut dire dard en anglais. Ouais. Ça vient d'où ce surnom ?
Ça vient du chef d'un groupe, en fait, qui était le chanteur et le leader d'un groupe dans lequel Sting jouait, qui était un groupe de jazz. Et en l'occurrence, Sting, il avait pour habitude de porter, c'était la mode à l'époque, hein, c'était la fin des années 70, de porter des t-shirts à rayures comme ça, jaune et noir. Donc la guêpe, l'abeille, le dard. Ouais. Et puis, il y a quand même une deuxième lecture à ce surnom quand on connaît un peu le personnage de Sting et sans doute ce qu'il était vraisemblablement à 20 ans. Il a dans l'expression du dard, enfin je vais pas vous en faire des caisses.
Il est impertinent ?
Il était plutôt séducteur.
Ce dard là.
Voilà, si je peux m'autoriser, je ne sais pas comment m'en sortir de cette situation.
En tout cas, le message est passé.
Le message est passé et voilà. c'était avant tout, je crois, pour ça qu'il était dit.
On va vous aider, Eric, en passant quelques morceaux. On a choisi ensemble des chansons de son répertoire pour raconter son histoire. On commence avec celle-ci. Fragile. C'est quoi l'histoire de cette chanson, Eric ?
D'abord, il faut la resituer dans le contexte. Elle sort en 1987 dans un album qui s'appelle Nothing Like the Sun. Et 1987, c'est une année terrible pour Sting qui va perdre son papa et sa maman. Et donc, il est terriblement éprouvé, évidemment, parce qu'il est en train de se passer. Et puis, il y a cette aventure qui s'est passée 2 ans avant. Un type qui s'appelait Ben Linder, qui était un ingénieur au Nicaragua, qui construisait, il était américain, il construisait un barrage hydroélectrique. Et il a été assassiné par les terroristes Contras. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il parle de fragilité de la vie. Cette chanson sera même traduite en portugais et en espagnol. Et puis, surtout, pour nous, aujourd'hui, elle a une consonance tout à fait différente. Et ce, pour deux raisons. Le 11 septembre 2001, Sting doit donner un concert qui est enregistré pour la télévision dans sa maison, sa villa de Toscane. Et évidemment, arrivent les événements qu'on connaît. Et Sting va décider justement de commencer le show par cette chanson, Fragile, pour expliquer la fragilité de la vie. Et puis quelques années après, ce sera le 12 novembre 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que Sting a fait la réouverture de la salle du Bataclan, après le drame que l'on connaît. Il a choisi justement, il a commencé par un long discours qui était très beau, qu'il a fait en français.
En français, oui.
Et ensuite, la chanson qu'il a chantée, justement pour ces mêmes raisons, c'est Fragile, parce que fragilité de la vie. Voilà, cette chanson, c'est une chanson un peu emblématique de la sensibilité et de l'intelligence politique de Sting.
Oui, parce que comment partir d'une situation personnelle pour faire une chanson universelle ? Vous disiez que cette chanson lui a été en partie inspirée par la mort de ses parents. On va remonter aux origines de Sting. Il naît dans le nord de l'Angleterre, Newcastle, 2 octobre 1951. Alors, c'est pas son nom, hein, il s'appelle Gordon Sumner. Ils font quoi, ses parents ?
Alors, son papa, c'est Ernest Sumner. Il est ouvrier dans les chantiers qui fabriquent les bateaux. Sauf qu'avec la crise, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il va être obligé de changer de boulot et devenir laitier. Quant à sa maman, c'est Audrey Cowell. Elle est coiffeuse. Sting, il a un grand frère et 2 sœurs, Angela et Anita. Voilà, c'est une famille populaire. Hein.
Une famille populaire, ouais. Qui aime la musique. Il y a déjà des instruments et on
pas
chante
vraiment,
dans la famille de
pas
Sting.
Pas vraiment. En fait, la découverte de la musique, ouais, pour Sting, c'est une guitare d'un tonton. Une espèce de tonton voyageur, qui est le fameux tonton Cristobal. Bah, il a eu son tonton Cristobal.
Il est revenu.
Ouais, ouais. Il revient, mais quand il part, il laisse une guitare. Il laisse une vieille guitare. Et Sting, il tourne autour de la guitare. Puis bon, il commence à jouer. Puis je crois que ça lui lui plaît beaucoup. Alors il va apprendre plein d'autres instruments, la mandoline, l'harmonica ou encore même la flûte de pan, car Sting sait jouer de la flûte de pan.
Mais il sait tout faire. Ouais. Alors vous parliez du métier de son papa et qui travaillait sur les chantiers navals. Dans l'un de ses derniers albums, The Last Ship, il raconte, il rend hommage à cette ville de Newcastle devenue une ville fantôme. On écoute un extrait de la chanson phare de l'album.
Through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale, may the angels protect me if all else should fail and the last ship sails o'er the
Très, très belle chanson de Sting qui raconte son histoire aussi. On va avancer dans son histoire, justement, l'histoire de Sting. Il va être détourné du jazz par une rencontre très importante, un certain Stewart Copeland. Qui est-il ?
Stewart Copeland, c'est un batteur, fils de musicien, frère de Ian Copeland, qui est producteur de musique et notamment de musique de film. Et Stewart Copeland, il cherche des gens pour faire de la musique à ses côtés. Et un jour, il assiste à un concert où Sting tient la contrebasse dans un groupe, parce qu'en fait, il est instituteur. Et puis, le soir, il fait de la musique. Et là, en l'occurrence, il joue avec un groupe qui s'appelle The Last Exit. Et l'autre va lui dire, mais tu veux pas jouer avec nous ? Alors, ils vont commencer à jouer ensemble avec un troisième larron qui n'est pas encore d'ailleurs Andy Summers, mais qui est un Français corse qui s'appelle Henri Padovani. Et ensemble, ils vont créer l'ébauche de ce qui va devenir le groupe Police.
Sauf que c'est pas du jazz, c'est plutôt du punk. Hein.
C'est plutôt du punk, très inspiré de l'époque, mais Sting a jamais été punk, pour de vrai. Il a toujours été influencé par... D'abord, c'est un intellectuel, il a toujours été très très impressionné par les paroles, il a toujours voulu donner des doubles sens à ses chansons, et surtout le jazz, mais il arrive au punk, parce que voilà, et puis c'est un bon chanteur en plus.
Une femme va tout bouleverser, ou plutôt un prénom de femme. Roxane, Roxane, on vous raconte dans un instant comment Police est devenu un groupe culte. A tout sur RTL.
Votre après-midi sur RTL. 15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Tapis rouge, RTL dans la curiosité pour Sting qui sort un nouvel album le mois prochain. On remonte avec Éric Jean-Jean aux origines du succès. Nous sommes en 1978 et le groupe Police en enregistre ce single. C'est pour une compilation de jeunes talents anglais. Roxane, alors jusque-là, le groupe Police jouait plutôt de la punk music. Là, c'est carrément un slow, une chanson d'amour.
Ouais, alors il y a plusieurs histoires à raconter. D'abord, celle qui va être finalement le début de la fin pour Police, avant même que ça commence, parce que toutes les chansons sont écrites par le batteur, Stewart Copeland, et le leader. Donc il y a Andy Summers, Padovani est parti, et Andy Summers arrive, c'est un très bon musicien. Et ils font écouter les chansons à Ian Copeland, le grand frère de Stewart, qui les trouve toutes nazes, sauf une, qui est la seule qui n'a pas été écrite par Stewart Copeland, jalousie, mais par Sting, c'est Roxane. Et Roxane a été inspirée à Sting par une série de concerts qu'il donnait à Paris. Et alors j'ai longtemps cru que ça s'est passé.
Ah, c'est une Française, Roxane ?
Oui, alors c'est une prostituée française en l'occurrence. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ils sont en train de faire des concerts à Paris. Et moi, je croyais qu'il logeait à Pigalle et pas du tout. Sting m'a dit, la dernière fois qu'il est venu, que c'était dans un hôtel Gare du Nord. Voilà. Sauf que Sting, il reluque quand même un peu les prostituées du coin. Et puis, ça l'inspire. Pull on the red light, c'est-à-dire la lumière rouge des bordels. Rouge. Hein. Ouais. Et puis, quand il rentre dans son hôtel, qui est un hôtel un peu miteux, dans le hall de l'hôtel, il y a cette fameuse affiche d'un spectacle qui doit être donné dans un théâtre quelconque à l'époque sur Cyrano de Bergerac. Roxane de Cyrano de Bergerac a inspiré le prénom de cette chanson de Police.
Génial. Extra. Et là, c'est vraiment magnifique le tournant, histoire. Cette chanson pour le groupe Roxane. C'est le début de la fin.
C'est le début de la fin et le début du début.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ça les lance.
Ça va, évidemment que ça va les lancer. Ça va être un énorme succès sur leur premier album qui est plutôt quand même pas mal réussi.
Et il y a une autre petite histoire dans l'histoire. Ouais. Au tout début du titre, écoutez bien, on entend un drôle d'accord au piano. Ah, il est passé, hein, c'est très furtif. Ouais.
En fait, on va, si tu peux nous le remettre tout à l'heure, je vais d'abord raconter l'histoire. Écoutez. il y a une fausse note et après il y a un rire. Et pendant qu'ils sont en studio d'enregistrement, Sting se lève comme je suis en train de le faire et il essaye de se poser une fesse sur le piano pendant que ça enregistre et pam, il fait une fausse note et donc il éclate de rire. Et donc vous entendez dans l'intro, ils l'ont gardé parce que c'était marrant.
Un accord de fesse.
Un accord de fesse. Bah voilà. Et un éclat de rire.
Bon, il n'avait pas bu que de l'eau ce jour-là.
Ouais, bien que ce ne soit pas le roi des excès. Hein. C'est Sting n'est pas le roi des excès, il est plutôt même le roi de l'ascétisme.
C'est pas sympa de
balancer. Ah, c'est vrai ? Yoga et compagnie.
C'est yoga, c'est aujourd'hui, pour être aussi beau qu'il est à l'âge qu'il a, je pense qu'il se nourrit que de graines, que de macrobiotiques, etc. Il fait de la méditation deux fois par jour, il fait du yoga, il fait du sport, oui. Et du sexe tantrique aussi.
Du sexe tantrique.
Il l'a dit dans une interview à un journal anglais.
Du sexe sans se toucher, c'est ça ?
Ah non, pas du tout, mais du sexe sans orgasme.
Ah.
C'est moins drôle.
C'est plus long.
Ah, pourquoi pas. Ça fera l'objet d'une autre curiosité.
Comme du champagne sans alcool. Allez, on continue de dérouler l'histoire de Sting. 1979, ça s'emballe pour le groupe grâce à cette chanson. Message in the bottle. Alors, il faut avancer dans le temps, Eric. Il y a le succès. Et comme souvent dans l'histoire des groupes, le succès amène les ennuis, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs précisément ce qu'on peut retrouver comme une allégorie dans cette chanson Message in a Bottle, Thomas. Mm-hmm. C'est-à-dire Message in a Bottle, si vous traduisez les paroles de cette chanson, c'est simplement un type qui est sur une île déserte et qui n'arrête pas de balancer des bouteilles à la mer pour qu'on revienne vers lui. Et soudain, il y a plein de gens qui viennent et lui, il ne veut plus les voir. Et c'est le principe du succès. C'est-à-dire, non seulement il a balancé des bouteilles à la mer qui sont les chansons, et puis quand il a eu le succès, en fait, il n'en peut plus d'avoir du succès. Et puis surtout, ils vont avoir d'autres emmerdes aussi avec le fisc anglais.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est surtout l'argent qui est arrivé à flot. Ils n'ont pas trop su
ils
comment
payent
le
pas
gérer.
Leurs impôts, c'est
pas qu'ils ne payent pas leurs impôts, c'est que c'est Thatcher qui arrive, rappelez-vous, de l'Angleterre de cette période-là. Ouais. On est au début des années 80. Et soudain, les grandes fortunes, et notamment les fortunes du rock'n'roll, rappelez-vous, les Rolling Stones qui se sont isolés, ils habitaient jamais plus de 5 mois au même endroit parce que sinon, ils allaient payer les impôts. Donc il y a plein d'artistes qui vont se faire rattraper par le fisc. Je crois qu'elle taxait à 80 ou 90% Margaret Thatcher à l'époque. Donc en effet, ils se sont retrouvés à un moment avec beaucoup trop d'argent à payer aux impôts.
Dans un instant sur RTL, on continue de vous raconter la carrière de Sting et de son groupe Police et vous découvrirez que cette chanson n'est pas du tout une chanson d'amour. Oh là là, bien au contraire.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité consacrée à la carrière de Sting qui nous séduit depuis plus de 40 ans et qui sort donc un nouvel album le 20 avril prochain. Eric Jean-Jean, on écoute
présent.
Là, j'espère bien parce que vous connaissez
Jean-Jean.
Bien la carrière de Sting. Nous, on est fans, mais bon, tous les détails et toutes les bonnes histoires, c'est vous qui les avez. Cette chanson, Every Little Thing She Does Is Magic, on est en 80, c'est le quatrième album. C'est magnifique, moi j'adore cette chanson, sauf que c'est toujours la pagaille, le groupe continue de se déliter à ce moment-là.
Ouais, de toute façon, depuis le début, le groupe continue de se déliter.
Mais sur quoi ils se bagarrent
en fait, ils se bagarrent sur, j'allais dire, la suprématie et sur le fait de qui dirige le groupe. Mmh. Stewart Copeland pense à juste titre que c'est son groupe, parce que c'est lui qui l'a créé, et Sting pense à juste titre que c'est lui la vedette du groupe, parce que c'est lui qui écrit les bonnes chansons, parce que c'est lui qui est le frontman. Et donc voilà, c'est un peu compliqué.
Il y a deux boss en fait.
Il y a un boss qui pense être le boss officiel, et puis il y en a un autre qui est le vrai boss. Et c'est vrai que ça se finira en 1986. Ils vont se séparer en 1986 au terme d'une dernière tournée qu'ils n'auraient pas dû faire, parce que voilà. À la fin, il y avait sur les fûts, donc Stewart Copeland, c'est le batteur, donc vous voyez, le batteur, vous avez devant à droite, vous avez le guitariste et Sting qui chante. Et sur ces fûts, Stewart Copeland avait écrit « Fuck you, va te faire foutre ». Et à chaque fois que Sting se retournait, genre pour boire un coup, ou qu'il se retournait vers son ex-copain musicien, il voyait « Fuck you ».
Ouais, c'est sympa. Pourquoi ils sont tous blonds dans les premiers temps
ça,
du groupe
rigolo, parce qu'au tout début du groupe, ils ne marchent pas tellement, ils n'ont pas encore eu de succès. C'est-à-dire que Roxanne, ça a mis du temps à décoller. Il va falloir qu'ils fassent une petite tournée aux États-Unis et que ça explose dans les radios américaines pour que ça devienne un tube. Bref, ils ont besoin de sous. Et Sting, pour financer d'une part sa propre vie et d'autre part un peu le groupe, il fait des pubs parce qu'il est hyper beau. Donc, il fait une pub pour des chaussettes et notamment une pub aussi pour une marque de chewing-gum qui s'appelle Wiggles, WR, je ne sais pas comment on dit.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est Sting qui dit ouais, mais moi je veux aussi mes deux copains. Donc, ils mettent les deux copains. Sauf que les mecs disent non, ça va pas du tout, ils sont pas raccord.
Le visuel n'est pas bon.
Le visuel n'est pas bon. Donc en fait, ils vont leur teindre tous les cheveux en blond. Et si vous regardez les pochettes de Police à l'époque, ils sont tous peroxydés. Et ça, c'est pour une pub.
Et tous ces petits blonds font des merveilles comme cette chanson. Every breath you take. C'est l'un des plus grands succès du groupe, cette chanson. Eric, ah, vous voulez pas parler, vous voulez continuer de l'écouter, c'est ça?
Ouais, j'étais dedans en fait. Non, mais parce que cette chanson, elle est bouleversante pour plein de raisons. Parce que Sting y évoque une de ses obsessions, qui est la possessivité, qui est la jalousie. En fait, Sting, il a une histoire compliquée avec les femmes avant de rencontrer Trudy Styler. Et même après, il est avec une femme qui est actrice, qui va beaucoup l'aider au début, qui va même financer le début de carrière de police et de Sting. Elle s'appelle Frances Tunley. Et pendant qu'elle est sur scène avec une autre troupe de comédiens, elle joue avec une autre femme qui s'appelle Trudy Styler. Et Sting va séduire la copine de son épouse pour partir finalement faire sa vie avec lui. Et malgré le fait que ce soit lui qui soit parti, malgré le fait que ce soit lui qui ait fait le sale coup, en fait, il écrit cette chanson en pensant à sa première femme, en lui disant « Attention, à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu bougeras, à chaque fois que tu fermeras les yeux, j'aurai l'œil sur toi. »
C'est flippant un peu, non ?
À fond.
Alors, la carrière de Police va s'arrêter, mais pas celle de Sting. Police, c'est quoi ? C'est combien d'albums déjà ? C'est en train de m'échapper, mais c'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure.
C'est 6, non ?
Oui,
6 ou 7.
Oui, 6, il n'y a pas eu de 7e. Voilà, ça y est.
Si on compte les compilations,
ça me revient.
Tout
merci,
ça
beaucoup.
Un petit peu plus, ouais. Merci beaucoup. C'est
7 ans de carrière et 6 albums. Et Sting qui se lance dans une carrière solo et qui revient à ses premières amours, le jazz. Écoutez. Alors moi, je pensais qu'il parlait de lui, qu'il parlait d'un séjour ou d'une période longue qu'il avait passée à New York, mais de qui parle-t-il ?
C'est ce que tout le monde a dit, juste en préambule à ce que vous disiez, Thomas, sur le jazz. En fait, il va faire un truc dingue, Sting, il va débarquer à New York et il va s'adjoindre les services des meilleurs musiciens de jazz de la grosse pomme, dont celui qui joue le saxo, là, qui s'appelle Branford Marsalis. Voilà, ce truc-là. Magnifique, non ?
Pas mal.
Et voilà, et pour ce qui est de la chanson...
Et alors, cet anglais perdu à New York ?
Quentin Crisp, c'est un intellectuel, c'est un comédien, il est exubérant, il est très homosexuel et il est très mal vu dans ce London conservateur tel qu'on peut le connaître au début des années 80, même si les punks sont passés par là. Mmh. Et il décide de s'exiler dans la ville de New York en disant bah, au moins là-bas, si je suis comme je suis, personne ne m'embêtera. Et il sera même dans le clip vidéo de cette chanson où il rencontrera Sting, un clip vidéo réalisé quand même par David Fincher, hein, où on voit à un moment Quentin Crisp et qui dira de Sting... Pour un rocker, c'est un gentleman.
C'est une chanson sur la tolérance. Sting, il fait toujours un peu de politique dans ses chansons. Ses textes ne sont pas là par hasard.
Non, et Sting, en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il n'y en a pas des tonnes dans la pop musique internationale, c'est que c'est un intellectuel et qui tient beaucoup à ça. Il va même traduire un auteur du Moyen-Âge à un moment. Quand vous parlez de The Last Ship, c'est vraiment une comédie musicale qui d'ailleurs sera jouée à Broadway.
Qui n'a pas trop marché d'ailleurs.
Non, pas tellement. Même Sting ira jusqu'à monter sur scène dessus pour essayer de la sauver, mais ça ne marchera pas. Mais il a toujours ce double sens, ou cette intelligence, ou cette poésie. Non, il n'y a jamais aucun texte qui est écrit par hasard par Sting.
La saga Sting continue sur RTL. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de cette chanson.
Et puis, juste après, dans la curiosité, un autre Dard, Frédéric Dard, alias San Antonio.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le prochain Sting, c'est le 20 avril, l'occasion pour nous de raconter son histoire, de découvrir son destin avec Eric Jean-Jean. Et on a décidé, Eric, qu'on choisissait chacun certaines chansons et vous vouliez aussi nous raconter l'histoire de Don't Stand So Close to Me. Moi, je me souviens du clip où il est plus ou moins déguisé en prof. C'est quoi l'histoire ?
D'abord, c'est l'histoire de sa vie. Entre 71 et 74, il est prof, Sting, dans une école, qu'on va qualifier de collège. Hein, c'est l'équivalent du collège pour nous les Français. Mm-hmm. C'est une école de filles et il a des gamines entre 71 et 74 au Paul's Middle School. Et il enseigne l'anglais, mais aussi le football à ses heures perdues, parce qu'il adore le foot, Sting. Ouais. Et voilà. Et en fait, Don't Stand So Close To Me, il dira très officiellement, parce qu'il y a toujours deux sens dans les chansons de Sting, que c'est en fait son adaptation version Police du Lolita de Nabokov. pas de souci. Sauf que quand on connaît son histoire, Don't Stand So Close To Me, c'est-à-dire que c'est un prof qui s'adresse à une élève en disant ne reste pas trop près de moi, sous-entendu trouble sexuel qui peut être généré par le prof en direction de l'élève, mais aussi par le contraire.
Ou l'inverse.
Ouais.
Vous avez des infos sur le prochain album? Parce qu'on a écouté le duo avec Shaggy.
Ouais, des fois Sting il fait des trucs bizarres.
Après,
mais non, mais je sais pas. Là, il prend Shaggy. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson de Shaggy qui s'appelle Mr. Lava Lava.
Ah bah oui.
C'est un rappeur caribéen, vous voyez, qui est tout dans le sexe, etc.
Langoureux.
Et ouais, Mr. Lava Lava, voilà. Et donc là, on a découvert la chanson aux dernières victoires de la musique. Il s'est adjoint les services de Shaggy. Je sais pas si ce sera un
album
caribéen.
Il veut goûter à tout, Sting, c'est ça?
Oui, mais parce qu'il a aucune limite et c'est bien.
Ouais. Et ben voilà, on
merci beaucoup.
Eric.
Je peux vous dire un petit truc sur lequel on est en train de travailler, peut-être.
Ouais.
Rapido, on n'est pas à l'abri que ce soit lui qui ouvre le grand studio de Neuilly.
Ah, ça serait génial.
On attend sa réponse.
Je réserve une place.
Et on vous retrouve tous les jours dans le Drive sur RTL2 de 16h à 19h.
J'y vais là.
Merci,
ciao.
Eric. À très vite.
Merci, Eric. À très vite.
Vous écoutez RTL.